Le but marqué à 2 minutes 22 par Christina Dimitriou. Avec l'aide de Sébastiano Brunet, Lucie Beaulieu, Tarek Malki, Jenny Agostino, Edith Chen, Emmanuel Jean-Pierre.
Au hockey, comme en immobilier, pour réussir, ça prend toute une équipe. Et avec vos 5000 courtiers Remax, la force du réseau roule pour vous. Remax est heureuse de s'associer à Martin McGuayeux et Danny Dubé pour vous présenter le tout nouveau balado Bon Match.
C'est 23.
Au réseau Cogeco, vous écoutez les amateurs de sport. Voici Mario Langlois.
Allons maintenant retrouver immédiatement Stéphane Wade. Bien le bonsoir, Stéphane.
Salut Mario, comment ça va?
Ça va très très bien, Steph, du Festival de hockey encore une fois en fin de semaine. Oh. Si je te demande, alors qu'on avance là, dans la première ronde et qu'on commence à avoir plus de données, plus de matchs derrière la cravate, est-ce que tu peux identifier un joueur que tu considères là, au-dessus de la mêlée, vraiment comme le joueur qui t'impressionne le plus dans tout ce que tu as vu de hockey depuis qu'on est en série?
Ben moi, écoute, pour moi c'est un choix facile. J'y vais avec Brad Marchand. Et la raison est simple, il est pas dans les meilleurs marqueurs français, quoi. Il est quand même, il est quatrième dans les marqueurs jusqu'à présent dans la Ligue nationale avec 3 buts, 5 passes. C'est pas, ça n'a rien à voir avec ses chiffres. C'est que le leadership qu'il amène à cette équipe-là, il m'impressionne. Il se laisse pas déranger. On sait que les Leafs sont, les Bertuzzi, les Domi sont après, ils font tout pour le déranger. Il réplique jamais. Il va aux limites de ce qui est acceptable. Faire sortir la frustration des Leafs à quasiment chaque présence. Mais surtout, le gars a pris 0 minute de punition depuis le début des séries. Qui aurait dit ça après 4 matchs, après tous les coups qu'il reçoit, après toutes les petites taloches qu'il y a après le sifflet? Écoute, pour moi, le Brad Marchand démontre des qualités de leader qui vont dans la tradition des Bergeron, des Chara, des Book, et on peut reculer jusqu'à Bobby Orr. Mais non, moi,
il a pris au sérieux son rôle de capitaine, clairement.
Oh, puis à peu près, Mario. Ouais, donc c'est lui. Moi, c'est mon choix.
Ben, très bon choix. Puis avant la dernière saison, là, il a isolé les recrues. Il a passé quelques jours avec toutes les recrues qui entraient dans l'organisation sans savoir s'il allait faire le club. Là, vraiment, ça, en tout cas, par rapport à, tu sais, il a pris ça au sérieux, là, le leg de Zeno Chara à Patrice Bergeron à lui. Puis vite fait, de même, as-tu un gars que c'est cruel un peu, mais un gars qui te déçoit, mettons, ou qu'on pourrait qualifier de la déception des séries?
Ça ici, pour moi, c'est un choix facile pour l'instant. Connor Hellebuyck. Connor Hellebuyck, qui n'est pas l'ombre du gardien de but de la saison régulière. Et puis, écoute, il y a sûrement une des raisons pourquoi que Winnipeg va faire face à l'élimination. A donné en moyenne 5 buts, plus de 5 buts par match. Une moyenne d'efficacité terrible à 870. Mais c'est pas qu'il donne beaucoup de mauvais buts, mais il fait pas les gros arrêts quand c'est le temps. Et c'est ce qu'il a fait pendant toute la saison régulière. A été le meilleur gardien de but pour moi dans la saison régulière. Et dans les séries, très, très grosse déception. Et sans Connor Hellebuyck au top de sa forme, les Jets ont 0 chance.
Parce que tu pensais, puis je dis pas que tu avais tort de le penser, que t'as pas dit que ça allait... Avais-tu choisi Winnipeg ou Colorado en première ronde, Steph?
J'avais pris Winnipeg en 7 pour une et unique raison.
Georgiev. Ben oui. Ben là.
Exactement.
Mais, alors, l'Avalanche réussit à bien protéger son gardien, marquer assez de buts pour l'emporter, tout simplement. Il y a les Canucks de Vancouver, eux autres, Ferrare, qui ont remporté 3 victoires dans cette série-là, sans jouer du hockey très impressionnant, peut-être défensivement, mais en tout cas, en attaque, c'est plutôt limité, mais avec 3 gardiens différents. Il y a des éléments de logique qui prennent le bord, parfois, en série, là.
Non, exactement, avec 3 bonnes performances. Demko a été très, très, très bon dans le premier match avant qu'il soit blessé. Casey DeSmith, avant qu'il soit malade, avait 1 victoire, 1 défaite, mais il a été très bon dans le match numéro 2 quand on a gagné. Et j'ai adoré hier Artus Sivlov.
L'ancien des Lions de Trois-Rivières.
Ben oui, qui a joué 10 matchs il y a 2 ans avec les Lions. J'ai adoré, premièrement, son calme. un jeune de 23 ans et aussi une belle technique, imposant devant le filet, en contrôle. Lui, là, c'est comme s'il jouerait à Trois-Rivières, là. Il avait l'air de ça hier, là. C'était pas trop, il n'avait pas trop impressionné par qu'est-ce qui se passait devant lui. Il a été solide. Donc, j'ai bien aimé ce que j'ai vu de ce jeune gardien de but, là.
Si t'es un coach des Leafs de Toronto, avec qui tu reviens demain alors que ton club fait face à l'élimination?
Ah, je vais avec Joseph Woll. Faut essayer quelque chose. Et écoute, Samsonov a pas été méchant, mais j'en reviens encore au fait de on manque les gros arrêts quand c'est le temps. À un moment donné, on a eu une échappée. C'est un but. Il n'y a pas des gros arrêts quand c'est le temps, même s'il ne fait pas il fait pas mal. Mais il donne quand même plus de 3 buts. Une moyenne d'efficacité très ordinaire de 883 après 4 matchs. Donc il est juste correct. Et dans les séries, un gardien de but qui est juste correct, c'est difficile. Donc, on n'a rien à perdre d'aller avec Joseph Woll. Et l'année passée, Joseph Woll avait fait très, très bien dans la première série contre le Lightning de Tampa Bay. Avait été peut-être la surprise. Donc, je m'attends à voir Joseph Woll dans le filet demain soir. Aucun doute, là.
C'est drôle parce que j'ai prédit Toronto en 7. Puis, tu sais, dans notre choix de poule avec de l'humoriste Dominique Paquette dimanche passé, on fallait choisir un gardien numéro 2. J'ai choisi Woll en disant qu'il allait entrer en scène alors que les Leafs allaient être acculés au mur et devenir le héros de la série. Je te dis pas que ça va vraiment arriver, mais en tout cas, ça va être drôle mais si jamais ça survient.
Ça pourrait, puis ton choix est encore bon, et moi, c'est avec lui que j'irai demain.
J'ai hâte de voir. En même temps, es-tu capable d'identifier qu'est-ce qui fonctionne pas avec les Leafs? Moi, je t'en ai parlé souvent, puis c'est pas d'être opportuniste. T'as vu la sortie de zone où Ryan Reeves a fait un très mauvais jeu. Mais tu sais, je vais répéter, s'il est pas assez bon pour Vegas il y a 3 ans, et qui n'est pas habillé à tous les matchs en finale de conférence. Qu'est-ce que le génie à Tree Living, qui a mis les Flames dans une drôle de situation de gestion de masse salariale, qui, je sais pas comment ça fait qu'il est embauché à Toronto, qu'est-ce qu'il a pensé qu'avec un Reeves dans l'alignement, en série, puis un Joel Edmondson, tu sais, j'ai rien contre Joel, il a rendu des bons services aux Canadiens, mais c'est déjà miraculeux qu'il soit pas blessé, là, déjà, à ce statut en série, mais, tu sais, t'as ça dans ton club, ils sont plus assez bons pour des clubs qui sont même pas aussi haut dans le classement. Je sais pas qu'est-ce qu'il pensait gagner. En même temps, j'espère qu'il va me faire avaler mes mots puis me faire gagner ma prédiction avec Wall s'il revient dans la série. Mais il me semble que ces gars-là n'ont pas d'affaires dans l'alignement. Je parle surtout de Reeves.
Ben écoute, je suis d'accord. Puis je l'ai souligné ici sur ma feuille de notes. T'as même pas 5 minutes de jouer dans le match. C'est 0-0. C'est un match très, très important. Et t'as Reeves qui embarque avec 4 minutes et quelques de fête en première période. Revirement, la rondelle est dans le filet, le but de Van Rensdijk. Et puis, ben là, déjà là, les Leafs sont dans le trouble. Déjà, sont sur les talons. Mais Ryan Reeves, je sais pas qu'est-ce qu'il peut apporter dans cette série-là. J'ai aucune idée. Il peut pas suivre à l'avant. Il peut même te coûter des matchs. Et oui, tu peux blâmer Trevor Lee, mais tu peux blâmer aussi l'entraîneur. C'est lui qui met les joueurs sur la glace à la fin de la journée. Donc, je sais pas qu'est-ce qu'il fait sur la glace. Et les Leafs se tirent dans le pied avec ce genre de joueurs-là. Le troisième pilier, la même chose. Les Leafs se sont tirés dans le pied avec Jake McCabe qui est allé donner une mise en échec en plein centre totalement inutile et ça a créé un 2-1. Un 2-1 qui était Marchand et Pastrnak. Le but, le rondelle se retrouvait dans le filet et ça en était fait des livres.
Moi, je pense même, j'ai quasiment envie d'amener Domi, t'es un meilleur joueur d'hockey, là, mais je pense pas que. Ouais. Tu sais, c'est les gars. T'essaies de jouer aux agitateurs, d'être meilleur que Brad Marchand à ce qui est devenu une expertise pour lui. Tu vas tomber deuxième, puis l'équipe tombe deuxième. Ça, c'est sans parler des leaders. Bon, je fais pas un grand plat que les caméras les ont captés en train de, tu sais, de peut-être pas se dire, hey, on va-tu pas asseoir, mais, tu sais, c'est assez énorme. C'est sûr que les caméras captent ça, on en fait une grosse histoire. C'est comme Pierre Paget avec Matt Sundin dans le temps. Ça, c'est encore plus éloquent ou c'était plus clair qu'il y avait un désaccord, mais, je veux dire, c'est-tu régulier dans un match de série ou quand l'enjeu est grand que sur le banc, t'étais pas sur le banc pendant les matchs ou dans le vestiaire que ça parle fort, Stéphane?
Ben, j'ai pas vraiment de problème avec ça. Puis même peut-être au contraire, c'est peut-être le temps qu'à un moment donné, les gars se disent, hey, là, c'est que t'as fait telle affaire sur la glace, réveille-toi, on peut pas se permettre telle affaire ou telle affaire, c'est le temps de le dire, c'est pas le temps quand ça va être le match, la série va être finie. Et ça, j'ai pas de trouble avec ça. Là, ça s'est fait devant les caméras, mais ce genre de choses-là, ça se fait souvent dans le vestiaire. Et j'aime ça, des gars qui vont dire qu'est-ce que tu penses au lieu que tout le monde ferme leur boîte et on laisse passer l'affaire et puis qu'on le regrette plus tard. Donc ça, mais ça a quand même démontré que ces gars-là, quand je parle de ces gars-là, les Marner, les Nylander, les Matthews, les Tavares, ont beaucoup, beaucoup de pression. Et la pression est en train de
d'étouffer. Oui, carrément.
Et ça fait sortir une certaine frustration.
Je sais pas que c'est qui vont sortir comme lapin du chapeau, mais en ce moment, personne ne les voit revenir dans la série. Mais, tu sais, si t'es un vrai club qui est dû pour gagner, tu vas revenir dans un 3. Le Canadien, en 2021, est tiré de l'arrière 1-3 contre Toronto, puis miraculeusement, ils sont revenus.
C'est pas fini. C'est pas fini. Le quatrième match, c'est un cliché, mais c'est vrai qu'il est tout le temps dur à gagner. Parce que tu joues, quand tu mènes cette série-là, tu joues contre une équipe qui, en principe, il devrait être désespérée. L'énergie du désespoir, ça, c'est dangereux, ces équipes-là. Donc, c'est pour ça que c'est pas fini. Et surtout, si on amène un changement devant le filet, ça peut allumer une étincelle, ça peut changer une série de bords. On l'a vu souvent dans le passé. Donc, je vais suivre ce match-là demain avec une très grande attention parce que c'est pas fini.
Carter Verhaeghe inscrit les Panthers à la marque. C'est 1-0 pour eux en tout début de deuxième période. Son quatrième des séries des passes à Barkov et Mikola. Je termine en te demandant, Stéphane, tu nous avais parlé de tes choix, les candidats au Vézina. Connor Hellebuyck et Demko et Bobrovsky sont les choix, les candidats de la Ligue. Ouais. Qui devrait le gagner, ce trophée-là, le meilleur gardien de la Ligue cette année?
Ben écoute, en fin de saison, on avait parlé, j'avais nommé mes trois candidats, qui étaient justement les trois qui ont sorti aujourd'hui, et mon choix ne change pas, malgré des séries très difficiles que maintenant, on s'est voté pour la saison régulière, et en saison régulière, Connor Hellebuyck a été le meilleur gardien de but pour moi, à tous les points de vue, au niveau des matchs amorcés, il était troisième, au niveau des victoires, deuxième, la moyenne d'efficacité deuxième, la moyenne de but contre quatrième. Il n'y a pas de Bobrovsky ou Demko ne sont pas dans les trois premiers dans chaque catégorie et loin de là. Donc Hellebuyck se démarque avec peut-être pas une coche, mais même deux coches au niveau de Demko et Bobrovsky. Donc pour moi, c'est pas une surprise, les trois nominés, et ça serait une très, très, très grande surprise si ce ne serait pas Connor Hellebuyck.
Ben Steph, merci beaucoup. Bonne fin de match Floride de Tampa, puis le match de l'Ouest, on se reparle.
Ben ce soir, tout un match, hein? Tout un match ce soir, là, Vegas, Dallas, tout un duel de gardien de but entre Thompson et Oettinger, le dernier match. C'était un des bons duels de gardien de but. Et Dallas attend le réveil de Rupert Inns, Duchesne, Séguin et Pavelski qui n'ont pas de points jusqu'à date.
On regarde ça attentivement, puis qui sait, on se retarde peut-être en soirée, Steph, mais certainement cette semaine à quelques reprises. Merci beaucoup.
OK, Mario. Bonne soirée, merci.
Bye-bye, toi aussi. Bonne soirée.
Au réseau Cogeco, vous écoutez les amateurs de sport. Pour ceux qui en mangent du sport. Au réseau Cogeco, vous écoutez les amateurs de sport.
Et accueillons tout de suite Danny Dubé. Bonsoir, Danny.
C'est Mario.
Y a-t-il une série qui soulève ton intérêt plus que les autres, comme ça, à vol d'oiseau?
Et bon, écoute, c'est sûr que j'ai comme des choses sur chaque série parce que...
OK. Des points d'intérêt.
Ouais, c'est ça. Ben, premièrement, les Rangers qui éliminent Washington, je peux juste te dire tout de suite, là, c'est un moment historique. Parce que même si on s'en rend pas compte, parce que bon, Washington n'a pas de calibre avec Rangers, OK?
Non.
Et New York est plus fort. Bon, ça va. Mais Ovechkin n'a pas un point dans cette série-là. C'est la première fois dans sa carrière qu'il n'obtient même pas un point. Dans une série.
À peine quelques lancers.
Oui, exactement. 6 lancers au total, je pense.
Oui.
Et écoute, un soir de 4, t'es blanchi au dernier match, 15 minutes de jeu, tu sais, c'est inquiétant. Mais en même temps, tu te dis, c'est normal, c'est une équipe qui vieillit, donc le joueur vedette, qu'est-ce qui va arriver? Bon, les chicken, ça va nulle part, évidemment, là. Mais moi, je pense que on va lui trouver un nouvel ami, puis il va s'appeler Bessic stationnaire.
Ah.
Tu sais, à un moment donné...
Il va venir en meilleure forme la saison prochaine. C'est peut-être que c'est allé ces dernières années.
En fait, je pense pas que c'est un gars qui va au gym. Tu sais, c'est une force de la nature, là.
OK.
C'est quand tu le rencontres, tu le vois en personne, c'est une force de la nature. C'est un gars costaud, tout ça. Mais avec l'âge, c'est comme un incontournable. Il faut que tu
dises. Ça fait que son jeu de pied veut pas ses déplacements nécessairement.
Écoute, il bougeait pas dans cette série-là. À un moment donné, tu te dis, je comprends qu'on l'a sollicité beaucoup, et que Washington est entré en série, puis grâce à lui, effectivement, avec sa série, au début, dans le dernier droit de la saison, puis j'enlève rien, là, puisque c'est un grand joueur. Mais il reste que s'il veut continuer à performer et à être à la poursuite du record de Gretzky, moi, je pense que ça va être important pour lui d'être en meilleure condition physique pour égaler le niveau d'intensité de la Ligue nationale actuellement. Parce que je trouve que c'est
il était pas là, là.
Ah non. Puis c'est surhumain, là. La demande énergétique est incroyable. Alors, de plus en plus, je te dirais que, fais une parenthèse, puis on viendra à Byfield après.
Oui.
Que aujourd'hui, si tu veux réussir dans la Ligue nationale, ça te prend 4 trios, 6 défenseurs, 2 gardiens de but. Les équipes qui essaient de réussir sans ça, ça marche pas. Tu peux avoir un gardien de but vedette, là, je comprends ça, mais ton aménagement de plafond salarial doit être en conséquence. Le meilleur des mondes, c'est 6 défenses, c'est 4 trios. Puis là, il y en a qui trichent, on le sait, là. Mais à un moment donné, ça va arriver à échéance. Mais le net-net, la situation actuelle, c'est que les équipes qui réussissent sollicitent 4 trios, obtiennent une très bonne contribution offensive de 2 des 4 trios, souvent une contribution en périphérie, qui est quand même assez intéressante. Et les Rangers, pour moi, c'est le bon modèle, parce que je regarde Trocheck est dominant, là. Je t'ai parlé de lui à quelques reprises cette année en disant c'est un cheval, là. Tu sais, l'engagement défensif, les mises en échec, les tirs bloqués, tout ça. C'est encore ça. Et en série, c'est le joueur qui transcende, en tout cas, moi, je trouve, dans l'alignement des Rangers de New York.
OK, Trocheck, donc, fait la différence. Et oui. C'est souvent là, tu sais, quand tu es d'égal. C'était pas le cas contre Washington. J'ai hâte de voir dans les prochaines rondes, mais c'est très impressionnant, les Rangers. Hier, tu as regardé pour arriver tranquillement vers Byfield, puis juste avant Byfield, les Kings ont décidé d'opter là pour la stratégie « on va frapper tout ce qui bouge ». Donc, les Kings sont sortis des blocs hier et ils ont vraiment frappé, puis le public est embarqué dans la partie en disant « c'est comme ça qu'on va les avoir à l'usure ». Les Oilers prouvent que c'est devenu une équipe beaucoup plus mature d'être capable de gagner des matchs à haut pointage et de gagner un match 1-0 comme hier. Oui. Et à travers ça, puis tu sais, comment ces aspects-là s'attendent, puis tu observes le jeu d'un jeune Byfield également qui a appliqué de très solides mises en échec depuis le début de la série, lui qui est à 6-5-2-25.
Oui, c'est ça. Ben en fait, moi, ce que plus tôt dans l'année, on avait fait une chronique là-dessus sur, tu sais, Byfield. Pour dire aux gens, soyez patients avec Slafkovský, parce que Byfield, c'est un joueur qui est arrivé avec les Kings de Los Angeles, puis on l'a quand même rétrogradé, il a fait du temps dans la Ligue américaine, il n'y a pas, tu sais, c'est pas été du jour au lendemain, là. Et à 21 ans, aujourd'hui, on le voit arriver à maturité, puis là, cette année, les chiffres sont très similaires. En saison régulière, 20 buts, 30 passes, 50 points pour Slav. Et pour Byfield, c'est 20 buts, 35 passes, 55 points. Tu regardes les chiffres, c'est identique en avantage numérique, 14 points. C'est quelques points de plus à 5 contre 5 ou à forces égales pour Byfield. Puis, les deux ont joué à peu près le même nombre de minutes, soit 14 minutes à 5 contre 5, puis 2 minutes quelques en avantage numérique. Donc, on est dans le même créneau, là, si tu regardes ça. Mais là où il y avait une grande différence, c'est que les chiffres de Slafkovský, au niveau de son engagement défensif. Puis moi, c'est mes chiffres à moi, là. C'est, je ne parlerai pas de l'indicateur parce que les gens, je ne m'arrêterai pas à expliquer ça, mais je veux juste dire que Byfield est deux fois moins engagé physiquement en saison régulière que Slafkovský.
C'est okay. Quand même une grosse différence.
C'est une grosse différence.
Puis je pense qu'elle est remarquable aussi à l'œil d'une certaine façon, mais je t'écoute avec tes...
Oui, mais en série, Quentin Byfield a doublé ça. Donc, il a atteint le chiffre qui, pour moi, le place dans la même catégorie que Slafkovský en saison.
OK.
Donc, il a monté son jeu d'un cran pour utiliser l'expression consacrée. Et là, son engagement physique a passé de... mettons une mise en échec puis une rondelle bloquée à deux fois plus que ça, donc à trois mises en échec ou trois ou quatre actions défensives dans le match comptabilisées. C'est énorme parce que les meilleurs joueurs de la Ligue nationale, c'est à peu près ça, trois à quatre pour les meilleurs joueurs. Je te parle de Trocheck, je te parle de Austin Matthews, je te parle de JT Miller, je te parle de gars qui font une différence par leur engagement physique dans le jeu. Et cet engagement défensif fait que ça attire les autres. Puis là, je regarde les chiffres de Byfield en série, puis je me dis, quand même, je trouve que Slafkovský a plus à offrir. Est un peu meilleur dans certaines phases de jeu. Donc, pour moi, je regarde je me dis, normalement, quand le Canadien va arriver à échéance, Slafkovský va être un petit peu plus vieux, je pense que sa contribution va être plus significative que ce qu'on voit de Byfield actuellement. Là, écoute, toute comparaison peut être boiteuse, puis on peut reparler dans 2-3 ans, puis dire, t'es dans le champ, c'est correct, là, ça fait partie de la game, comme dirait l'autre. Mais honnêtement, je regarde mes chiffres, je regarde mes paramètres, mes indicateurs, puis j'ai l'impression que on va avoir ça de Slafkovský dans 2 ans.
Et Slafkovský, qui est déjà un gars intense, tu sais, qui a une grande intensité, même en saison régulière. Moi, ce qui pique ma curiosité et la tienne, sans aucun doute, Danny, c'est lui de savoir, lui, là, à quel niveau il va amener ça quand ça va être en série. Parce que il va réagir comme les autres. Tout le monde, en tout cas, à moins ceux qui n'ont pas une autre vitesse supplémentaire, peuvent pas y aller. Mais lui, je sens qu'il va en avoir une ou deux autres coches de plus. Puis ça, je suis très, très curieux de voir où il va être dans 2 ans, comme tu le mentionnes.
Oui, exactement. Puis je te fais une petite parenthèse par rapport pour te parler d'une confidence de Sylvain Lefebvre, OK?
Oui.
Lors de notre dernier voyage, Martin et moi, j'ai attendu pour parler avec Sylvain parce que je l'adore premièrement, là, je m'en confesse, j'aime ça, je parlais avec. Puis je disais, je l'ai attendu à la fin de l'entraînement, puis ça. Puis je voulais jaser avec, tu sais, parler de toutes sortes de choses. On aime ça parler de hockey, puis c'était intéressant de jaser de l'émergence de l'équipe, comment les choses étaient arrivées. Puis j'étais vraiment curieux de savoir pourquoi tout à coup Reinhardt était, parce qu'il était là dans l'équipe avant, comment ça que tout d'un coup il est transformé, tu sais. Puis il m'a dit, ben là, il a décidé de... Il a décidé de suivre Barkov, de prendre l'approche Barkov, tu sais, puis c'est pour ça que ça marche, puis ça.
Ça implique quoi, ça?
Ben, ça impliquait d'être plus engagé, ça impliquait de faire les choses comme pour que Barkov puisse le trouver sur la glace, pour qu'ils se synchronisent ensemble. Donc, il y avait des choses que lui devait s'engager beaucoup plus. Et Sam Reinhart a accepté ça. Il dit, ça n'a pas arrivé du jour au lendemain, là. Il dit, écoute, ça a pris une demi-saison avant que tout s'enclenche. Puis je disais, ça doit passer par le jeu à 55, parce que j'ai dit, moi, je suis convaincu que vous êtes une bien meilleure équipe aujourd'hui à 55 que vous l'étiez il y a un an ou 2 ans passés. Il dit, écoute, il dit, on s'est beaucoup amélioré, mais il y a des joueurs qui passent dans l'ombre. Puis il dit, c'est là où il m'a parlé de Verhaeghe. Il m'a dit, lui, là, il dit, c'est notre, Carter Verhaeghe, c'est notre meilleur joueur à 5, exception faite de Barkov, il dit, c'est notre meilleur joueur à 55. Puis que là, j'ai dit, ah oui, tant que ça, hein. J'ai dit, honnêtement, j'ai vu ses chiffres par rapport à mes choses que je regarde, puis j'ai dit, c'est vrai que son équilibre entre son engagement défensif et sa production offensive est quand même très, très forte. Il dit, écoute, il dit, c'est un gars qui nous donne des gros buts parce qu'il joue de la bonne façon. Puis il dit, c'est ces gars-là qui font que l'équipe aujourd'hui, elle est ce qu'elle est. Parce que il y a personne qui triche, il y a personne qui fait de compromis. Puis il dit Verhaeghe, c'en est un de ceux qui est capable de profiter des erreurs qu'il provoque lui-même ou ses coéquipiers profite des erreurs que lui va provoquer ou vice-versa. Donc, il dit, on a réussi à créer cet équilibre-là, ce qui fait qu'on a du très, très bon jeu, pas juste en unité spéciale. On est capable de produire des matchs joués serrés où il n'y a pas d'avantage numérique. On est capable de gagner ça, ce qui était très difficile auparavant.
Il est chez les pros depuis 2013, mais dans toute sa carrière, là, les deux dernières années juniors, il ne devait pas jouer avec un gros club, il y a les moins, mais dans les pros, il y a une année dans les moins, c'est sa première année complète dans la Ligue nationale, moins 9 avec Tampa, mais plus 24, plus 24, plus 10 et plus 17 cette année, les quatre années suivantes, juste pour appuyer ton propos. Dans les clubs qui font, j'aimerais ça t'entendre sur Toronto, est-ce que, puis c'est peut-être pas le point central, puis n'hésite pas à rebondir sur un point qui est plus central que ça, mais toi, Ryan Reeves, serait-il en uniforme pour un match où tu fais face à l'élimination?
Pas vraiment. Ça dépend de la situation de l'équipe, mais tu sais, moi, je sais que, bon, McMahon est blessé, là, il est toujours le jour. McMahon, pour moi, c'est un joueur qu'ils ont joué contre le Canadien, je trouvais qu'il amenait une dimension extrêmement intéressante d'engagement physique, gagner les bagarres le long des rampes, capable de distribuer la rondelle, produire un peu offensivement. Tu sais, honnêtement, j'ai pas de problème avec un gars comme Reeves dans l'alignement, mais pas tous les soirs, puis faut pas que ça prenne trop d'importance. Parce que c'est un joueur de soutien.
C'est ça.
Tu sais, quand t'as un joueur de soutien qui devient une vedette, là, t'es un caillou dans le soulier.
C'est
là.
Une distraction, quasiment.
Quasiment. C'est un caillou dans le soulier. Écoute, tu vas avoir des gars comme ça, des bagarreurs qui arrivent, pis qui prennent énormément de place, mais écoute, avec tout le respect que j'ai pour ça, là, pour moi, ça a pas de raison d'être. C'est un joueur de soutien.
Hey, Vegas fait sortir de l'alignement contre Montréal en finale de conférence il y a 3 ans. C'est pas amélioré, là. Je sais pas.
Non, c'est pas accéléré, c'est sûr.
Okay, c'est ça, je trouve bizarre.
C'est pas accéléré. Mais tu sais, Boston, moi, je veux dire ceci, OK? Boston, c'est une équipe qui adore amener la rondelle dans la zone adverse puis faire travailler l'adversaire dans la zone adverse. Leur mandat premier, c'est on passe pas de temps dans notre zone.
Mm-hmm.
C'est leur mandat numéro un. Puis les équipes qui ont ça comme mantra.
Stratégie, oui.
Et Colorado est pareil. Ça fait que tu restes loin de ton gardien de but le plus possible. Et honnêtement, c'est difficile pour Toronto d'avoir cette philosophie-là avec la défensive qu'ils ont. Tout le monde est là, regarde vers Austin Matthews, regarde vers Marner. Et by the way, là, et moi, ce soir, le prochain match, ils joueront ensemble. Je te le dis ce soir, là, ils joueront ensemble, puis probablement le jeune Nice y retournera avec eux autres.
Ben
puis
oui.
Je me ferai un trio assurément plus dynamique, puis je mettrai mes œufs là parce que c'est plate à dire, là, mais actuellement, à répartir la force de frappe, c'est pas l'idéal. Même chose à la défense. Je me ferai un duo de défenseurs pour m'assurer que la rondelle sort de la zone au moins avec une ligne. Essayer d'avoir un trio qui peut m'amener, qui peut me donner un peu de oomph. Parce que, écoute, actuellement, là, c'est malheureusement, je trouve que cette équipe-là est comme ils ont pas assez de profondeur où ils obtiennent pas assez de l'ensemble de leur alignement, ben ça se transpose souvent en deuxième période. Tu sais, les déficiences d'une équipe, on les voit beaucoup en deuxième période. Puis au pointage, Boston mène le score 6-2 en deuxième période.
Aïe aïe.
Fait que quand tu gagnes 6-2 la série en deuxième période, imagine comment tu as le couteau sur la gorge après ça. Après ça, tu peux parler de l'avantage numérique. Tu peux parler de n'importe quoi. Tu es toujours à courir après l'adversaire. Alors moi, je dis ceci. Eux autres, là, c'est vraiment de travailler le plus possible en unité de 5 pour sortir de la zone. Puis pour ça, tu peux pas avoir un Reeves dans ton alignement. Il faut que tu aies des gars qui sont capables de gérer la rondelle. Parce que Boston t'amène trop souvent dans ta zone. Fait que Reeves, tu sais, sortir la rondelle de la zone, là, c'est pas facile.
Il l'a sorti comme un gars de 162 livres qui a peur de se faire frapper, alors que ça devrait être le gars le plus apte à l'avoir protégé le long de la bande. Puis s'il n'est pas capable de faire ça, ben je vois pas qu'est-ce qu'il fait dans l'alignement. Danny, un gros merci. Merci d'avoir amené ton oomph à l'émission de ce soir, en début de semaine. Et puis, on se reparle très bientôt cette semaine, Danny. Merci beaucoup.
Avec plaisir.
Bye bye.
Bye bye.
Les amateurs de sport. Pour ceux qui en mangent du sport. Na, 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 na. réseau Cogeco. Vous écoutez les amateurs de sport.
Vous connaissez bien ma prochaine invitée, mais ce que vous savez pas un peu comme moi, c'est où est-il actuellement dans le monde? On pourrait faire un quiz. Est-il en Arizona? Est-il en Utah? Est-il à Nicolette? Est-il en Tchéquie? À Ottawa? À Montréal? André Tourigny? Où es-tu? Bonsoir, André.
Trouver la vérité.
Right. Quelle est la bonne réponse? Who wants to be a millionaire?
Exact. C'est en Arizona. Je suis jusqu'à... Oui, jusqu'à demain matin, je pars pour l'Autriche. Là, puis là, tout notre camp, après ça, on s'en va. On va à la Prague, là, mais on commence en Autriche. Fait que, on commence demain matin.
Fait que toi, mon André, c'est assez relax. Ton horaire, quand je regarde ça depuis deux semaines, là...
Ouais, là, je me disais de quoi, j'ai pas l'habitude d'avoir des horaires très relax. Je suis le genre de gars qui est capable de se double booker, mais là, on a donné du gaz pour payer. Là, c'est quelque chose.
Parle-moi de ce que tu as constaté, de ce que tu as vu sur place de l'accueil. On a vu des reportages au Fessayant, etc. On s'est parlé la veille de ta visite à Salt Lake City, puis j'étais très curieux de savoir ce que tu en avais pensé.
Honnêtement, c'était bien au-delà de nos attentes, parce que, des choses qu'il faut comprendre, c'est qu'on, autant qu'on dit on part à zéro, on part pas à zéro, là. Le groupe qui est Smith Entertainment, qui ont acheté l'équipe, il a la possession aussi du jazz. Puis eux autres, le philosophie, c'est une équipe. C'est un deux thèmes. One team. Puis, tu sais, là, on est arrivé, le jazz ont 400 employés à temps plein, 600 à temps partiel. Ça, je te dis, on est arrivé là-bas, on était reçus comme des rois. Autant par les fans, qui ont été, dans l'hangar de l'aéroport, qui ont été à l'aréna, dans les rues, partout, c'était exceptionnel. Puis tout était tellement bien organisé par l'organisation du jazz. On va appeler ça le jazz, mais c'est Sports Entertainment Group. Puis là, les gens qui conduisaient, parce que, exemple, les femmes étaient là, puis ils voulaient visiter les environs, puis voir les neighborhoods, là, où est-ce qu'on pouvait aller rester, puis tout ça. Puis, c'est les gens qui nous conduisaient, là, c'était les COO, le CFO, le directrice des sponsorships, là. C'était all in on deck, tout le monde a participé, tout le monde essayait d'aider. Honnêtement, c'était accueilli comme des rois, c'était fabuleux.
C'est extraordinaire. Puis même, vous avez été, si j'ai bien vu là, les images, il y avait un gros rassemblement dedans. C'était-tu dans l'aréna où vous allez jouer?
Ouais, toi, ouais, je suis là. Tu sais, c'est. Justement, quand on est arrivé, nous autres, là, on est arrivé vers 10h30 le matin. Puis il y avait du monde. Il y avait, mettons, 150-200 personnes qui étaient déjà en avant de l'aréna, qui attendaient qu'on rentre. Puis ils nous ont dit depuis 7h le matin qu'il y a 100 personnes qui sont là, qui attendent, qui veulent être les premiers à rentrer. Dans l'aréna, il y a rentré 12 000 personnes parce qu'il y a une. The end of the ring. Il y avait un côté, dans le fond, le fond de la zone était fermé parce qu'il y avait un rideau pour faire le stage. Donc, il y avait 12 000 personnes dans l'aréna. Ils ont rempli les concours sur les stands.
Oui, les coursives, là, oui.
Puis, il y avait 7 000 personnes dehors qui n'ont pas pu rentrer parce qu'il n'y a plus de place. Ça vous donne une idée comment il y avait du monde là et comment il y avait de l'ambiance. C'était complètement fou.
C'est le scénario idéal parce que, tu sais, t'as beau amener une équipe, est-ce qu'elle est désirée tant que ça? Là, tu te poses pas trop de questions. Puis même, du point de vue des propriétaires, je sais pas avec qui vous avez débriefé ça, puis le groupe de joueurs, ton personnel d'entraîneur, c'est comme... Là, ça... En tout cas, si t'étais incertain, si ça te fait vivre de l'insécurité, ça compense un méchant temps, là?
Exact. C'est de voir comment c'est organisé. Tu sais, parce que là, pas nous autres de l'intérieur, on se demande, OK, là. On s'en va d'une nouvelle ville, il n'y a pas d'organisation, on peut tout organiser ça, on ne connaît pas le marché, on ne connaît pas le monde, on va faire quoi? Mais c'est pas ça, là. Et on s'en va pas d'une organisation, je n'ai pas d'organisation, là, que ce soit au niveau des ventes, du marketing, du business side, tout ça, là, c'est déjà tout en place, ça va être de synchroniser tout ça, mais il y a déjà ça, puis nous autres, la gang d'hockey, on fait du hockey, là, fait que on s'en va dans cette organisation-là, c'est pas comme si on partait à zéro, là, fait que... Maintenant, là, c'est bien fait.
Ben, je comprends. Puis, est-ce que ça a donné lieu à d'autres rencontres avec tes propriétaires, avec des gens, pour question de savoir où tu t'en vas au plan hockey? C'était-tu la place pour avoir des réponses là ou c'est pas là? C'était pas ça l'enjeu?
Ben, non, c'était pas ça l'enjeu du tout. Là, c'était vraiment une première rencontre au niveau, là. Les deux, dans le fond, tout le monde se présentait, là. Tout le monde, qui qu'on est, puis comment ça marche, là, dans le sens que eux autres comme organisation. Fait que, Honnêtement, ça, c'était très bien fait. Là, il y a des communications qui... Il y a de l'urgence dans certains dossiers. Là. Pour certains mondes, pour le monde, ils vont dire, ouais, bon, tu sais, le club d'hockey, c'est une priorité, oui, c'est sûr. Sauf qu'on avait déjà, on part pas à zéro, on avait déjà un plan qui était en mouvement, là. Fait que c'est pas comme si le bateau s'en pose en aller. On continue dans cette direction-là, mais au niveau, là, ça nous prend, on n'a pas de bureau là-bas, là. On n'a pas de bureau, on n'a pas d'aréna, on n'a pas de facilité, on n'a pas de gym, on n'a pas rien. Puis c'est sûr que la saison, c'est au mois d'octobre l'année prochaine. Sauf que nos joueurs, exemple nous autres, quasiment tous nos joueurs s'entraînaient ici en Arizona. Là. Et là, je dirais...
L'été, ouais, c'est ça.
L'été, 70% des joueurs étaient ici. Là, ici, nos locaux, ils arrêtent à fin juin. Donc là, OK, là, on organise ça comment, on fait quoi, etc. Il y a d'autres défis, disons. Fait que là, là-bas, les locaux sont pas prêts. Fait que là, OK, comment on organise le training des gars cet été? C'est quand ils peuvent s'en aller, là? C'est quand que les locaux vont être prêts, etc., etc.? Il y a 100 000 questions, là, que je dirais que c'est ça l'urgence de la situation.
Une chance, tu joues pas en Australie pour commencer la prochaine année?
ça arrête, c'est trop.
Me semble de voir M. Bettman, y a-tu des volontaires? me semble de vouloir lever la main. Fait que là, as-tu commencé à checker pour à regarder pour une maison déjà ou est-ce que quelqu'un qui va s'occuper de ça pour toi?
Non, on va y aller là, plus tard là, dans l'été. Là, où je pars le chemin du monde. J'ai pas le temps.
Je comprends donc. C'est malade.
C'est ça. J'ai pas le temps. Tu m'en as avec ça. Mais quand on revienne, au lieu de m'en aller direct au Québec, on m'en aller là-bas à Salt Lake. Puis on va regarder tout ça. Puis...
Bon, c'était pas une grande surprise là d'être reconfirmé comme entraîneur-chef de l'équipe canadienne. Puis je sais à quel point t'as à cœur ce programme-là d'équipe Canada, des championnats du monde ou toute compétition là, y compris les championnats du monde junior. Fait que t'es-tu là-dedans en ce moment au plan hockey, c'est ta priorité, j'ose croire. J'imagine tu t'en vas demain pour le camp.
Ouais, c'est ça. Mais tu sais, on a fini nos meetings nous autres avec les dans le fond quand on est revenu du Utah, tout à fait. On a juste eu aujourd'hui, on avait une journée de meeting, des choses qu'on a besoin d'acheter, des choses qu'on a besoin d'améliorer, mais c'était pas nous autres les coachs, là, c'était d'autres choses. Puis, mais en dehors de ça, là, en fin de semaine, les coachs de Hockey Canada sont tous venus à Phoenix, puis on s'est rencontrés le jeudi, on a le samedi. Dimanche, on est reparti samedi soir, fait que on a pris de l'avance là, puis là, demain matin, on part.
Qu'est-ce que tu délègues à tes adjoints avant un tournoi comme ça?
Beaucoup de choses. Première des choses, je veux pas bâtir le système par moi-même. Je veux pas que ce soit mon système. Je veux pas que ce soit ma façon de faire. Je veux que ce soit notre façon de faire. Ça, pour moi, c'est important. Le sentiment d'appartenance, le sentiment de fierté, quand t'es juste un exécutionnaire, c'est difficile d'embarquer. Fait que pour moi, c'est toujours important. Fait que pour ça, je fais toujours un meeting avant où on a tout bâti le système. Tout le monde a amené son playbook, ses séquences vidéo, mais on a bâti la façon de jouer dans notre zone, la façon de jouer défensivement, offensivement dans notre zone, dans une offensive, etc., les unités spéciales. On a parlé de tout ça, tout le monde on a débattu, on a parlé de comment on voulait amener nos pratiques, comment on voulait gérer notre équipe, etc., pour que, justement, ça soit le produit de tout le monde, de tout le staff. Puis là, on est en train de, si tu veux, d'emballer ça comme il faut, de faire les PowerPoints, etc. Puis quand on va arriver à Vienne, on va jouer le 1er mai, on va aller mercredi, on va se rencontrer les coachs, le lendemain les joueurs.
Est-ce que, en principe, les non-négociables sont les mêmes non-négociables qu'à peu près tous les entraîneurs de la Ligue? Y a-tu un point où il faut argumenter? Mettons que toi, il y a de quoi que, sans que ça t'impose ton système, mais un ou deux éléments de ton système auxquels tu tiens vraiment. Je veux dire, sais-tu, pour l'harmonie puis pour le fait que tous vous ne fassiez qu'un, là, tu vas-tu faire des compromis sur des choses ou des affaires auxquelles tu tiens vraiment? Tu vas dire ça, c'est pas négociable.
Ben, j'essaie que ça se passe pas comme ça. Parce que chaque entraîneur, à un moment donné, quand on se rencontre, il y a des choses, exemple, que Steve Ott, je sentais que pour lui, c'était bien important. Ben, je pense que tout le monde a embarqué là-dedans. OK, parfois, on fait quand même affaire pour Dean Everson. Il y avait des choses que pour lui, c'était clair que c'était une priorité. Bon, on a fait des ajustements. À l'inverse, c'est la même chose de mon côté. Quand il y a des choses qui sont très importantes, ça peut toujours être changé, mais ça prend des meilleurs arguments. Pour quelqu'un.
Tu peux-tu me donner un exemple d'un sujet, mettons, que vous avez débattu en coach, je veux dire, OK, on va faire ça demain?
Il y a plein de choses. Des petites choses, des choses un peu plus grandes. Exemple, j'ai beaucoup d'expérience dans les short-term tournaments, mais comme ça, dans les événements comme ça. Tu peux pas arriver là, puis, dans mon opinion, moi, avoir 20 différents drills dans les pratiques. Changer de drill à toutes les pratiques. Parce que là, tu perds ton temps à changer de drill, expliquer les drills, que les joueurs assimilent les drills. Fait que, j'essaie de limiter ça. Fait que, des fois, c'est pour les coachs, exemple, ça peut être, ouais, mais j'aime bien ce drill-là pour créer des zones coverage. Ouais, mais on a un autre drill qu'on peut faire des zones coverage puis la zone neutre avec. Fait que c'est celui-là qu'on va utiliser parce qu'on n'aura pas besoin d'expliquer deux drills. C'est des affaires la même. Ça, c'est des choses, exemple, que pour moi, sont pas négociables, dans le sens que,
okay.
Dans le déroulement. Mais il y a des choses aussi dans le système, exemple, que, tous les systèmes sont bons, sauf que moi, de la façon que je joue, mettre beaucoup de pression, puis pour ça, je veux pas qu'on joue de man en main dans notre zone. Fait que, tu sais, je suis négociable à l'intérieur de jouer une zone. On peut jouer de différentes façons, on peut jouer une hybride, plein de choses, mais, ça aurait été difficile de me convaincre qu'on va jouer en membre. Fait que, tu sais,
sans dire que parce que c'est un court tournoi ou?
Non, mais ça, c'est mes croyances comme moi.
Même en saison.
Ouais, moi, je. Tu sais, il y a des choses comme entraîneur que t'es ce que t'es. T'sais, moi, je suis un gars qui est très agressif. Dans tout ce qu'on fait, on est très agressif. Puis, il y a certains points dans notre division, sans vouloir être trop technique, si tu joues en homme, il y a certains points de pressure que moi, ben, on peut pas avoir. Puis, c'est le bout que je tiens mon bout, mettons. On va dire ça de même.
Dis-moi pas que tu as eu le temps de regarder des matchs de série à travers tout ça, André?
C'est sûr, il faut pas se reposer dans quoi.
Hein? Je peux-tu te demander, ça va être la question de nos auditeurs, auditrices tout à l'heure en tribune téléphonique. Est-ce qu'il y a un joueur qui, pour toi, là, se démarque plus que la moyenne, qui a un impact sur l'ensemble du jeu, plus que n'importe qui actuellement dans ce court échantillon des séries, dans ce que tu as pu voir, André?
Oui, c'est une bonne question. Oh boy! Non, je dirais McKinnon, là. Je trouve tellement, là, qu'il est en train de passer au travers de Winnipeg d'une façon, c'est difficile, mais.
Je t'ai peut-être suggéré McCarr. Ouais, c'est ça.
Ouais, ça m'a dit. McCarr est probablement une aussi bonne raison, là. Parce que c'est difficile pour moi de répondre.
Oui. À Toronto, je sais pas si t'es à l'aise de répondre à ça avant qu'on se quitte. On se questionne chez les médias, ça fait plusieurs années qu'on se questionne. On se demande si les Leafs sont pas en train de perdre une bataille de culture. Autrement dit, que la culture des Leafs serait pas à la hauteur de la culture des Blues. La série est pas terminée, c'est un 3, on ne sait jamais pour la suite, mais tu penses-tu que c'est un bon questionnement à avoir pour toute organisation qui a de la misère à passer à un autre niveau par rapport à la culture?
Ouais, mais c'est parce que le débat, là, c'est OK. Comment tu fais pour changer la culture?
Ouais.
C'est là,
tu changes de cultivateur?
Ouais, c'est ça. C'est un bien beau mot, la culture, là. Mais j'aimerais bien ça pour les appels, que le monde explique la culture, c'est quoi? La culture, c'est profond, là. La culture, c'est pas juste l'éthique de travail. C'est la culture, là, pour moi, c'est quand c'est tes joueurs qui prennent possession de la façon d'être.
Oui.
Dans
l'équipe. Il se coach tout seul, quasiment, là.
C'est ça. Ça, c'est quand Charlie Henry m'avait dit, ça prend 7 à 10 ans. Ma femme-là, elle me dit, voyons, Charlie, 7 à 10 ans, là. Elle avait 22 de 29 ans. Je disais, voyons, là, Charlie, 7 à 10 ans. On va être mort dans 7 à 10 ans. Ça va être plus vite que ça, tu sais, j'avais pas patience. Mon Dieu a compris que c'est ça. T'sais, une culture, c'est pas parce que t'as deux bonnes saisons que t'as une culture, là. C'est quand t'es. Je vais prendre un exemple à Rouyn-Noranda. Moi, je pense qu'on avait une culture. Quand on faisait une transaction pour un joueur, là, je disais pas, voici comment ça va marcher à Rouyn. Il savait. Les Yankees, dans les bonnes années, là, le gars, il signait là, il faisait échanger. La première fois qu'il faisait, il se coupait les cheveux, il se faisait la barre parce qu'il savait que c'était comme ça que les Yankees. Il n'y a pas besoin d'y en parler. Là. Tu rentres pas le gars, tu dis, hey, là, tu fais pas la barbe. C'est pas de même que ça marchait. Là, vous avez un exemple qui est très banal, dans le sens que c'est pas ça une culture. C'est pas ce que le chou fait la barbe. C'est pas ça. C'est ça que je suis en train de dire. Mais, exemple, la façon qu'on pratiquait à Rouyn, là. Pas moi qui disais au gars, mieux d'être prêt, le grain, là. Les joueurs qui disaient à Johnny Boy, hey, Johnny, ça, c'est de même qu'on marchait, là. Fait que, mieux d'être prêt au camp, là. C'est le même sur le marché. Le joueur, dans 90% des cas, il savait avant d'arriver chez nous, là. C'est rare que j'avais besoin de dire, le monde me disait, hey, ça a dû être dur de convaincre un tel. Non, j'en ai même pas parlé. J'en ai même pas parlé. Il savait rien, il est arrivé chez nous, il était prêt, il était tourné, là, puis, t'as pas besoin d'y en parler. Donc, tu sais, ça, puis j'étais là 12 ans, là. C'est là que ta culture venait de bien, que c'est tes joueurs. Puis quand il y en a un qui est pas dans la culture, c'est tes joueurs, là, qui la regardent de travers, là, hey, le bouffon, c'est le même, ça marche, ça, là.
Puis qu'est-ce que ça fait 9-10 ans que t'as le même noyau de joueurs, André, puis si t'as pas gagné, ça veut-tu dire que t'as pas de culture, ou ça veut dire que, tu sais, ça veut pas dire que tout est acheté à poubelle, mais tu comprends, comme Boston, ça fait longtemps qu'ils ont pas gagné, mais on va dire de Boston qu'ils ont une culture claire, je pense. En tout cas, tu sais, que c'est assez clair, malgré, bon, Chara est plus là, Patrice n'est plus là, là, c'est Brad, mais tu sais, on sent que c'est la même culture. Mais quand est-ce que tu fais, c'est quoi un constat d'échec d'une culture s'il y a lieu d'en faire un à un moment donné?
Ben, premièrement, une culture, là, c'est pas linéaire, dans le sens que tu commences pas, puis ça s'en va toujours à s'améliorer, là. T'as des échecs, là. Ben, tu sais, t'aimes pas bien, là. Ils ont commencé à prier, je pense que c'est 11 ans ou 13 ans à gagner, je me souviens plus, là, exactement, là. Je pense que c'est 11, mais ça peut être 13. Puis à travers de ça, là, de l'année 0 à l'année 11, là, maintenant, ils ont fait les playoffs. Puis après ça, ils ont manqué encore.
Oui.
Là, c'est pas arrivé, là, OK, là, les trois premières années ont manqué playoff, puis après ça, ça a été en montant tout le temps. Là. Non. Il y a des années qui ont fini premier dans la Ligue, puis qui ont perdu en quatre dans le playoff contre Columbus. Là.
Oui.
Mais c'est l'ensemble de tes échecs qui fait qu'à un moment donné, tu apprends de ça, puis tu deviens meilleur, puis tu répètes pas les mêmes erreurs, etc., etc. Puis ça, c'est un. Puis deux, à Boston, là, par là, Jim Montgomery, puis lui, il disait, là, j'ai été tellement impressionné quand c'est arrivé là, les gars se coachent tout seuls. Il dit, moi, dans mon bureau, là, j'ai John Madden, Corey Schwab, qui a joué au New Jersey dans les bonnes années. Là. Et eux autres, là, ils me disent tout le temps, nous autres, au New Jersey, on disait, we don't do that here. It's not the way we do it. Et puis, il dit, c'était bien, bien clair. Là, quand il y en a un qui arrivait de l'extérieur, il faisait quelque chose que, on disait, hey, ça, t'as pas fait ça, là. Ça, c'est pas de même qu'on fait ça. C'était une culture qui était claire, puis c'est les joueurs qui s'en occupent. J'en écoutais, bien entendu, Lou ou Pat Burns ou Jean Clément ou peu importe qui était là, faisait la promotion, faisait la direction, mais la culture était bien claire, là. C'est ça, c'est le même à Jersey, mais c'est pas le coach qui est obligé de faire la police, c'est les joueurs qui faisaient la police. Fait que c'est là que, c'est ça qui est, c'est quand tes joueurs, ils vraiment prennent charge de la situation. C'est tandis, t'es là pour les guider. Prennent charge de la situation d'un bon moment. T'sais, là, on dit à Toronto, c'est si, ouais, on disait ça à Washington jusqu'à temps qu'ils gagnent. On disait ça de Saint-Louis jusqu'à temps qu'ils gagnent. On disait ça de Tampa Bay jusqu'à temps qu'ils gagnent. Ils ont perdu en 4 l'année dernière quand ils ont gagné la Coupe.
Oui.
Toronto, on ne sait pas s'ils vont gagner cette année ou l'année prochaine ou dans 2 ans. On ne sait pas. Là. C'est sûr que là, quand la fenêtre va se fermer, qu'ils vont devoir recommencer un autre type de reconstruction, là, on pourra faire
un constat,
puis dire, OK, ça a marché, ça n'a pas marché, mais me dire une affaire. Je l'ai dit toute l'année, je vais le répéter. Il y a 7 clubs dans notre conférence, nous autres, que c'était, le monde disait, cup or bust. Mais une mauvaise nouvelle pour tous ces clubs-là, il n'y en a qu'un qui va se rendre en finale. Il y en a 6 qui vont buster, là. Sur ces 7, là. Puis peut-être, il y en a qui vont, au moins 3 vont perdre en première ronde, peut-être 4. On disait Winnipeg, Cup or Boss. Ben ouais, c'est sûr, ils jouent contre Colorado. Voyons. L'un des deux, là, tu sais. L'un des deux qui ne passera pas en deuxième round, là. C'est quoi? Winnipeg, c'est un constat d'échec, moi. C'est un peu, là. Ils jouent contre Colorado, là. En première ronde, l'équipe pouvait pogner en troisième round, eux autres. Peut-être que s'ils avaient pogné en première ronde, ils n'auraient pas passé en première ronde.
Ouais, il faut être juste.
C'est ça, là. C'est, on est émotif, puis on a des standards ou des. Ah, ils n'ont pas gagné la première ronde, mauvaise saison. Wow, c'est un peu, là. Comme il y a des choses, là. Après la première ronde, il reste 8 clubs. Fait que si mon calcul est précis, là, il y en a 26 qui jouent plus.
Oui.
Ils ne sont pas tout seuls à pouvoir plus jouer, là. Il y en a pas quelques, ça fait un bout qui ne joue plus, là. Fait que, tu sais, c'est cruel, là.
24.
C'est comme Edmonton, là, pour qu'ils gagnent. Tout le monde dit cup or bust. Ouais, 24, excuse. Cup or bust. Ouais, mais cup or bust, c'est la même affaire pour Colorado, c'est la même affaire pour bien d'autres clubs. Fait que Ils gagneront pas toutes, là. Il y en a qui gagneront pas. Fait que,
ah non, je te suis là-dessus. Faut pas être intransigeant ou chercher juste à fesser sa piñata, mais je pense qu'à un moment donné, c'est la répétition des échecs à un moment donné, si t'en sors pas, que là, peut-être t'es tenté d'en venir à un constat. Mais André, écoute, on sent que ton énergie n'est en nullement affectée malgré tes nombreux et récents déplacements puis tout ce que t'as amené. Fait que, écoute, bonne chance avec Équipe Canada. Et la barre, c'est toi qui l'as établi l'an passé avec une médaille d'or. Fait qu'on te souhaite d'avoir autant de succès avec ton groupe. J'espère que t'es pas trop déçu que Nick et Samuel n'y aillent pas cette année.
Ben, on peut choisir, on va. Tu sais, c'est pas. Moi, j'ai des de mes joueurs l'année passée qui sont pas venus, puis comme je vous ai dit, ils m'ont mal à ma place. C'est pas ma perte à moi, c'est ma perte à eux autres. Si pour eux autres, représenter le pays, c'est Samuel l'a fait l'année passée, là, puis sans lui, on n'aurait pas gagné. Que, s'il n'est pas venu cette année, c'est parce qu'il y a des bonnes raisons personnelles, là, c'est pas. Il a fait de la différence. Tu sais, c'est pas. Je le prends pas personnel le fait qu'il vient pas. Il y a des bonnes raisons pour qu'il vient pas. C'est pas.
Tout simplement.
C'est comme ça, là.
C'est la vie, André. Exact. T'aurais pu trouver des raisons de pas y aller, mais toi, c'est pas négociable. Fait qu'on n'est pas surpris. André.
Exactement ça.
Un gros merci encore une fois de ta disponibilité puis bonne chance à l'équipe canadienne là-bas. Bon envolé demain.
Merci,
bye bye.
Bye bye.
Merci. C'était le coach. Là, j'allais dire des Coyotes, mais il n'existe plus les Coyotes. De l'équipe de Salt Lake City, dont on trouvera le nom éventuellement. Et dans un instant, l'ancien des Leafs et des Canucks, notamment l'ancien gardien Félix Potvin.
Au réseau Cogeco, vous écoutez les amateurs de sport.
Touché!
Pour les fidèles du sport.
Ah, je suis très heureux d'avoir l'occasion de m'entretenir avec lui, puis on me dit qu'il était à un match des Leafs tout récemment, alors donc pas si loin de la réalité encore de la Ligue nationale et de l'ancienne organisation avec laquelle il a passé le plus de temps, hein, quand même tout près de 9 ans avec les Leafs. Nul autre que Félix Le Chat, Félix Potvin qui est avec nous. Bonsoir Félix.
Salut Mario.
Comment vas-tu?
Ça va très bien toi.
Ça va très très bien, fait que tu regardes encore un peu de hockey ou pas mal de hockey même?
Ben, pas mal plus dans les séries, dans la saison régulière, peut-être un peu moins, mais quand les séries commencent, l'adrénaline revient, même si on joue plus.
C'est fun
de suivre ça. Ouais.
C'est-tu l'organisation avec laquelle tu as encore le plus de liens? Tu as joué quand même pour. Tu as eu des beaux séjours dans quelques villes, mais Toronto, ça a été probablement là. Dirais-tu que c'est là que tu as eu tes plus belles années?
Oui, ça reste que c'est là que j'ai joué le plus longtemps. Puis les deux premières années, on a eu beaucoup de succès dans les séries, donc il est certain que le lien restait fort avec eux. Là.
Qu'est-ce que tu as ressenti en assistant au match par rapport à l'ambiance puis à cette espèce d'angoisse qui a envahi le marché, ce manque de confiance envers l'équipe, peut-être généré par les performances de l'équipe elle-même, mais qu'est-ce que tu en penses?
Moi, ben, je te dirais que honnêtement, j'avais pas, ça faisait un petit bout, j'avais pas été dans un match des séries, puis c'était une ambiance un petit peu bizarre. Je pense que la foule était derrière eux au début du match, mais ça s'est retourné de bord quand même assez vite. Puis de voir à la fin de la deuxième période qu'ils ont sorti de la glace sur les huées, c'est un drôle de feeling, en pensant que le match était quand même sensiblement, il aurait pu aller gagner ça.
Et veux pas, quand tu te fais huer par ton public, Félix, je sais pas si t'as déjà vu ça ou si t'as déjà vécu ça, mais je sais pas comment, ben, les athlètes doivent trouver une façon de réagir, mais ça doit pas être évident, hein?
Non, ben écoute, on a déjà été tous dans des situations comme ça, mais en même temps, je dois dire que le match était loin d'être un match spectaculaire du côté des Leafs samedi soir. Là, je pense pas qu'ils ont pas joué un grand match. Puis je pense que les fans étaient déçus, puis beaucoup de monde était déçu là, de la façon dont ils ont sorti, surtout que c'était un match très important dans la série, vu qu'ils tiraient de l'arrière 2-1, ils devaient gagner ce match-là. Puis en sortant de cette façon-là, je pense que ça a laissé beaucoup de un froid là, sur les partisans.
Si tu regardes l'équipe comme telle, qu'est-ce que, à ton œil, à toi, Félix, qui coachait encore du haut calibre, même si t'es pas professionnel, là, avec les Cantonniers Midget 3, qu'est-ce qui leur manque, coudonc? Ils ont du talent, en tout cas?
Ouais, mais écoute, je pense que peut-être l'année passée avec les insuccès de la deuxième ronde, il aurait peut-être dû procéder à un changement d'entraîneur. Écoute, on veut jamais blâmer l'entraîneur, mais en même temps, avec le groupe de joueurs qu'ils ont, ça faisait quand même 2-3 ans là, qui sortaient de bonheur dans les séries. Puis l'autre point que je pense qui lui fait beaucoup mal, puis ça, j'ai beaucoup de misère à me l'expliquer, là, autant des Leafs que d'autres bonnes équipes dans la Ligue nationale, c'est probablement au niveau des gardiens de but. Je pense que quand tu commences une série éliminatoire, puis t'as confiance plus ou moins à ton gardien de but, ben je veux pas, je pense que tu joues sous les talons, puis c'est difficile là, d'aller loin dans les séries. Les Leafs ont investi beaucoup d'argent, beaucoup de bons choix à l'attaque, puis de se retrouver à toutes les années à pas savoir qui garde les buts, je pense que c'est pas normal là, dans les séries éliminatoires.
Ouais, t'as raison. Puis je demandais, il y a quand même plusieurs points d'interrogation chez beaucoup de bonnes équipes devant le filet. Et je posais la question à Stephen Waite l'autre soir, à savoir, est-ce qu'actuellement, la position la plus faible dans la Ligue nationale, c'est la position de gardien de but? On a l'impression qu'il y en a déjà eu plus de gardiens dominants. Peut-être qu'il faudrait comparer les statistiques, mais as-tu une perception qui ressemble à ça?
Ben oui, mais écoute, je suis certain qu'il y a beaucoup de bons gardiens encore. Je pense que la perception a changé dans beaucoup d'équipes. Je pense que beaucoup d'équipes croient en gagner la Coupe Stanley avec leurs attaques et en investissant peut-être moins dans un gardien de but. Je pense le fait aussi que les gardiens de but jouent beaucoup moins. Il y a beaucoup plus une rotation à deux durant la saison. Je pense que peut-être ça l'empêche à un gardien de but de se développer, devenir plus dominant pour son équipe. Puis ça, ben j'ai de la misère à me l'expliquer pourquoi que de nos jours, un gardien ne peut pas jouer 60-65 matchs quand dans le temps qu'on joue, on était capable de le faire.
T'as-tu l'impression que les gardiens se dépensent plus d'énergie dans un match de hockey d'aujourd'hui, Félix, qu'à ton époque? Tu sais, je parle, quand tu fais la somme des entraînements, le style papillon, tu sais, des genuflexions, te relever, etc., la rapidité du jeu, t'as-tu l'impression que tu serais-tu plus vidé aujourd'hui si t'avais 25 ans, Félix Potvin, qu'un match il y a 20 ans au même âge?
Je penserais pour Mario, pour le vrai, tu sais, on regarde ça, on parle des entraînements, tu sais, nous, à ce temps, les entraînements, si on assiste à un entraînement de Ligue nationale, quand ça dure 20-25 minutes, on dit que c'est un entraînement rigoureux, tandis que nous autres, c'est rare qu'on sorte de la glace avant 1h30 de la glace, puis les équipements sont beaucoup améliorés pour les gardiens, donc, c'est nous, c'était lourd, donc, non, je vois pas. D'ailleurs, il y en a quelques-uns qui sont capables de le faire. En Ligue nationale, de jouer beaucoup de matchs.
T'as raison.
Je comprends pas la raison pour.
T'as joué, Félix, probablement plus de matchs éliminatoires que tout le club ensemble des dernières années. Là, puis je veux pas, me moquer des Leafs. J'ai du respect pour tous ces athlètes-là, mais il reste que quand t'arrives assez tôt dans ta carrière, 21 matchs éliminatoires, 92-93, de la fameuse finale de conférence contre les Leafs de Toronto, l'année d'ensuite, un autre 18 matchs. Est-ce que ce sont tes plus beaux souvenirs? T'as eu d'autres beaux moments avec les Kings, mais en série, tes plus beaux souvenirs sont là?
Oui, définitivement, ces deux saisons-là. Ben, les plus beaux souvenirs, puis le pire souvenir, là, quand on a perdu en 7 contre les Kings, là, ça, c'est l'année qu'il y avait une finale de la Coupe Stanley Canadien-Leafs, là, que ça aurait été extraordinaire pour tout le Canada, mais malheureusement, c'est pas arrivé. Mais oui, c'était d'avoir la chance à 21-22 ans de tout disputer ces matchs-là, de me rendre en demi-finale deux fois, c'était des beaux moments. Puis de le refaire un peu plus tard avec les Kings, c'était aussi des beaux moments.
Ben, je comprends donc, puis je me rappelle, puis quel plaisir d'avoir un gars, puis t'avais pas eu l'occasion de goûter aux séries pendant plusieurs années consécutives, de te voir ressurgir avec les Kings cette année-là, ça nous avait procuré des bons moments, ça nous a incité à regarder du match tard de la côte ouest, ouais. Même ici dans l'Est, tu sais, quand on aime ça regarder nos gars, y a-tu des joueurs que t'as de plaisir à regarder, peu importe la position, Félix, dans l'hockey d'aujourd'hui?
Ben écoute, les joueurs sont rendus tellement spectaculaires, puis les attaquants sont rendus tellement vite, tellement bons que tu sais, tu regardes un match comme hier, je regardais Colorado Winnipeg de regarder patiner, de regarder jouer Makar, c'est incroyable de le voir aller. McKinnon, c'est un peu la même chose. Donc c'est des joueurs excitants, des joueurs le fun à regarder.
Est-ce que tu t'ennuies du hockey dans un rôle actif?
Non, pas vraiment. Je pense que honnêtement, j'ai donné mon temps, je l'ai fait en tant comme joueur, en tant qu'entraîneur, puis maintenant, ben j'ai je profite du temps que j'ai pour m'occuper de mes choses. Mais non, je peux pas dire qu'honnêtement, ça me manque.
OK, fait que t'es pas du genre, Félix, là, que mettons un Kent Hughes t'appellerait comme il a appelé Martin Saint-Louis ou un DG de la Ligue te demanderait là, dire hey Félix, je pense que t'es l'homme pour directement venir diriger notre club dans la Ligue nationale. Tu dirais non, passe un autre appel ou
ça c'est une longue shot. Ben, certain, ben, je dirais peut-être pas non tout de suite. Là. Disons qu'on y penserait peut-être, mais je pense pas que c'est pas quelque chose qui me passe par l'esprit. Mais écoute, c'est certain que à chaque fois que quelqu'un appelle, tu prends le temps d'y penser puis de voir les options.
Mais ça, c'est intéressant ce que tu dis, parce que tu dis que c'est une long shot. Martin Saint-Louis, c'est une long shot. Hey, Stéphane Robida, ton ami, je ne sais pas jusqu'à quel point vous êtes amis, mais vous vous êtes succédé à la barre des Cantoniers. Ça aussi, on l'a pas vu venir.
Non, on l'a pas vu venir, non, mais écoute, je pense que c'est des... T'as raison, c'est des choses qui peuvent arriver. On ne sait jamais qu'est-ce que le futur garde, mais... Tu sais, je te dis non, que présentement, le hockey ne me manque pas, mais c'est peut-être quelque chose que, tu sais, ça peut venir.
Écoute, c'est comme n'importe quoi. Des fois, on s'ennuie pas de quelque chose, mais quand on s'en met dedans... Sais-tu, ouais. La chasse et la pêche, Félix, tes gros passe-temps, sans... Puis, je veux pas...
J'aime beaucoup... Ben, moi, je suis un gars de dehors, là, de bois. J'ai aussi deux terres que je m'occupe aussi. Là. J'ai deux propriétés que je passe beaucoup de temps dessus. Donc, tu sais, ça occupe beaucoup de mon temps.
Oui. Mais comme coach, là, t'as coaché Midget 3, puis tu semblais être vraiment relax derrière le banc. Puis t'avais un tempérament, je pense, spécial comme gardien de but, puis même comme homme, on dirait que, tu sais comment je te dirais, il n'y a pas grand-chose qui a l'air à t'énerver dans la vie. C'est-tu bel et bien le cas, Félix?
Oui, ben non, disons que j'ai grandi comme ça, ça fait partie de ma personnalité. C'est probablement un des aspects qui m'a aidé aussi en tant que gardien de but. Là, j'étais pas quelqu'un qui, oui, je ressentais la pression, mais j'étais capable de jouer avec, puis de rester calme dans plusieurs situations. Puis j'étais un peu pareil en arrière du banc, tu sais, en tant que joueur, j'ai jamais cru un entraîneur qui est hyper nerveux puis qui est hyper derrière le banc, donc j'essayais d'être un peu pareil là, pour mes joueurs.
Aimes-tu l'approche de Martin Saint-Louis si tu suis ça à distance?
Oui, j'aime son approche. Je pense qu'il a fait du bon travail depuis 2-3 ans. Maintenant, tu sais, sans rien enlever à Martin, je pense qu'il est arrivé quand même dans une bonne situation à Montréal où ce qu'il y avait le temps de faire une reconstruction. Maintenant, je pense qu'à partir de l'année prochaine, ben il faut que le Canadien monte de l'amélioration.
On soit un petit peu plus ambitieux. Je sais pas si c'est le coach avec lequel tu as eu la meilleure relation. Vous veniez tous les deux du même coin. Vous pouvez vous parler, échanger en français, mais quel souvenir gardes-tu de Pat Burns dans ces grosses années-là des Leafs avec toi devant Félix?
Non, c'est drôle à parler parce que j'étais au match des Leafs samedi avec les anciens, puis il y en avait une couple qu'on a joué ensemble cette année-là des séries, puis les gars, après la deuxième entraque, on parlait justement de ça, puis ils ont tous eu la même chose. Ils disent ça se passera pas de même avec Pat en arrière du banc. C'est un gars qui était beaucoup demandant, mais c'est un gars qui avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de respect pour ses joueurs, puis ce qu'il leur demandait, ben les joueurs leur donnaient. Tu sais, c'était un gars que tu savais à quoi t'attendre. Il n'y avait pas de zone grise avec Pat, autant que ça pouvait être le fun, autant que par bout ça pouvait être très, très difficile, puis qu'il pouvait être très marabout, mais au bout de la ligne, c'est ce qui comptait, c'est de gagner.
Pat Marabout, je te crois pas.
Boy. Ouais, mais Pat Marabout durant la saison de hockey. Pat t'as pas Marabout durant l'été, par exemple. C'était tout le temps un bon bonhomme, un bonhomme de bonne humeur, puis il était une bonne personne.
T'étais-tu dans la gang qui s'était doté d'un Harley Davidson, le fameux poster de toute l'équipe avec ses biscuits à gaz avec Pat, là? T'étais-tu dans la gang?
Ben, ça, c'était un projet, on l'avait fait 2 années en ligne, c'était une photo de toute l'équipe, puis une année, c'était avec le garage, avec les Harley, puis une autre année, je me souviens plus c'était quoi, je pense que c'était une caserne de pompiers.
Ah, t'es sérieux? Je ne l'ai pas vu,
ouais,
celle-là.
Oui, on avait fait des lithographies, c'était une série.
Ah oui, est-ce qu'ils ont de belles places dans, je sais pas, c'est une pièce où tu t'exhibes des photos ou des trophées que tu as récoltés dans ta carrière, est-ce qu'ils ont une place de choix à la maison?
Ouais, une couple de, il y a une couple de choses importantes là, qui sont à la maison, ouais.
En terminant, quel effet ça te fait d'avoir les cantonniers que tu as dirigés? Je pense que tu as contribué à donner de, beaucoup à ce programme-là. Puis même un de tes anciens adjoints et l'entraîneur-chef aujourd'hui, je lui ai parlé un peu plus tôt, Samuel Collard, de voir les cantonniers être champion canadien M18 3A, Félix.
Ben, c'est un soulagement. Félicitations à, d'ailleurs, j'ai texté Sam un matin. Félicitations à Sam, son équipe, toute l'organisation. Mais je pense que c'est la ville de Magog, l'Estrie qui méritait ça. Ça faisait 4 fois qu'on s'en rendait en finale, 3 fois qu'on a perdu en finale. Donc, je pense que c'était bien mérité, là, qu'il ait une belle saison comme ça.
En tout cas, il y a des bons entraîneurs, de bons jeunes entraîneurs qui poussent en Estrie, puis je pense que Samuel est très reconnaissant de ce qu'il a eu comme bagage, qu'il a pu vivre avec toi, puis vivre avec Stéphane. Un grand plaisir de te parler, mon cher Félix, et puis, on sait jamais, on va peut-être te sortir du bois à un moment donné.
On sait jamais, Mario.
On sait jamais. Salut, Félix, merci c'est beaucoup. Bon. Bye, bye.
Merci, Mario.
À la prochaine. C'était Félix Potvin, l'ancien des Leafs, des Islanders, en souvenez-vous, des Canucks, des Kings. Et où a-t-il fini sa carrière? Question quiz. François Brisson, c'est-tu ça ce qui a fini sa carrière? Tic-tac, tic-tac. Je l'ai dit à Michel, la réponse fait que lui, il ne peut pas participer. Les Bruins de Boston, c'est là qu'il a fini sa carrière.
Au réseau Cogeco, vous écoutez les amateurs de sport.
C'est